Bonjour, bienvenue dans Futur Composé. Nous recevons aujourd'hui une entreprise, une start-up, mais qui n'a pas développé une technologie virtuelle, mais qui utilise un matériau très ancien, le bambou, pour épurer les eaux de nos stations d'épuration et qui travaille sur l'assainissement.
Futur Composé, le magazine de la rédaction, Christian Apotelloz.
Nous sommes avec Bernard Benayoun, qui est le président, le fondateur de Bamboo for Life. Bamboo pour la vie, c'est bien ça pour,
Exactement.
Hein,
exactement.
Mon anglais a encore quelques mots valides. Vous mettez sur le marché, vous développez des techniques qui, à partir d'un matériau qui nous semble simple, que l'on a dans nos jardins, qui permet aujourd'hui de traiter un problème qui est planétaire, qui est celui des eaux usées, parce que si chez nous il est à peu près maîtrisé, encore que, il y a encore quelques failles, qui permet de le traiter avec des éléments naturels. C'est ça le défi que vous êtes donné ?
Exactement, exactement. C'est de travailler sur une technologie qui va pouvoir, on pourrait dire que c'est une technologie qui vient du biomimétisme, mais c'est une technologie qui va récupérer des éléments naturels pour les rassembler et faire en sorte qu'ils aient une fonction comparable à une station d'épuration classique, ou même au-delà des fonctionnalités d'une station classique.
Bon, dans les vieux systèmes, des vieilles stations d'épuration individuelles, on met de l'éparcile et on attend que ça sorte. Et puis autrefois, quand il était sorti dans les années 50, l'inventeur promettait qu'il pouvait boire l'eau qui sortait de la station d'épuration.
Alors on en est loin. La potabilisation de l'eau et l'assainissement sont vraiment deux métiers qui sont complètement différents.
Oui.
C'est deux stations qui sont différentes et qui ne sont pas au même endroit, qui ne sont pas faites par les mêmes personnes. La comparaison avec l'éparcile ou avec les station classique, on travaille toujours avec les mêmes éléments en fait. L'idée c'est de travailler avec des bactéries, les parciles c'est ça, c'est des bactéries qu'on met dans la fosse septique pour que la bactérie puisse faire de la dégradation.
Les enzymes gloutons quoi. Hein,
alors ils vont pas manger mais ils vont préparer. En fait, moi je compare toujours la bactérie au cuisinier. Ouais. On lui fournit la matière brute, hein. Donc la matière brute c'est la matière organique. La matière organique c'est une grande chaîne moléculaire, c'est des molécules qui sont assemblées les unes aux autres. Et je crois que c'était au programme de quatrième. On fabriquait des molécules avec des bâtons et des boules de couleur. Eh bien, si on peut reprendre cette image-là, la bactérie, elle a pour objectif de manger les bâtons, les liaisons moléculaires.
D'accord.
Donc, quand elle mange les bâtons, en fait, elle sépare ces grandes molécules en petits éléments. Et ces petits éléments, ce sont des éléments minéraux. Et voilà, le fin mot, c'est que quand on dégrade la matière organique, on va transformer un élément qui n'est pas du tout absorbable par la plante à un élément qui sont les nutriments des plantes, c'est-à-dire ces éléments minéraux, de l'azote, du phosphore, du potassium. C'est ce qu'on achète quand on achète une boîte d'engrais pour mettre dans les rosiers du jardin. On achète de l'azote, du phosphore, du potassium. C'est ni plus ni moins que la matière organique dégradée par les bactéries. Et donc, une fois qu'on a ces éléments, le bambou va jouer son deuxième rôle. Il va pouvoir prélever ces éléments.
Il y a un traitement avant.
Il y a un pré-traitement avant, oui, en effet.
Ouais. Et pourtant, vous ne démarrez pas du tout par ce genre de choses, par tous ces éléments que vous nous racontez là. Vous commencez par l'école Boulle à Paris. Vous êtes dans l'architecture d'intérieur, dans le mobilier contemporain. Donc, quand vous êtes étudiant, vous êtes plutôt passionné par l'art, l'architecture.
Oui, l'art, l'architecture, la créativité, tout ça, ça a été la passion, le design.
Vous êtes à Paris à ce moment-là.
Voilà, ouais, à ce moment-là, je suis à Paris, donc je fais mes 5 ans d'études à l'école Boulle pour avoir ensuite un diplôme métier d'art en design mobilier, architecture intérieure. Et donc à la fin de l'école Boulle, je quitte la France métropolitaine pour aller faire l'armée sous format de volontaire à l'aide technique à La Réunion pour faire mon métier de designer mobilier, où là-bas, je fais des collections de mobilier contemporain pour les artisans locaux réunionnais et pour développer des gammes de mobilier. C'est là d'ailleurs où j'ai commencé à travailler avec le bambou parce que il fallait utiliser des matériaux locaux, essayer de créer une dynamique au niveau de la ressource locale. Et là-bas, à La Réunion, et bien dans toutes les ravines, dans tous les bords de rivières ou de ravines, il y a des bambous géants qui sont vraiment très impressionnants.
Mais vous regrettez pas cette époque l'époque, vous étiez quand même sur travailler les beaux matériaux, sortir des beaux meubles, imaginer des belles lignes de chaises, de tables, etc. Non, c'est pas.
Moi, ce que je retire de ma formation, au-delà de la partie esthétique, c'est la partie créativité. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a appris à l'école Boulle, c'est d'apprendre un schéma de créativité, de partir de n'importe
quel. C'est quoi un schéma de créativité ?
Un schéma de créativité, bah, c'est excessivement simple. C'est une arborescence que l'on crée sur une problématique et on essaye d'atteindre un objectif à partir d'un point donné. On nous a simplement appris à savoir où on est, à savoir où on va. Et ensuite à identifier les différents chemins que l'on peut emprunter, pouvoir éliminer des pistes qui sont pas exploitables ou qui sont des mauvaises pistes ou des pistes trop chères ou trop longues ou trop tout ce que vous voulez, pour pouvoir ensuite arriver petit à petit à se poser les bonnes questions à chaque arborescence, à chaque fois qu'on arrive sur une intersection, se dire alors qu'est-ce qu'on fait, on a combien de possibilités, 3 possibilités, comment on va faire, on va choisir celle-ci, celle-là ou une autre, et on avance comme ça, et c'est comme ça qu'on fait un cheminement de créativité. On arrive à créer une gamme de mobilier, simplement en essayant de comprendre dans quel univers il va se situer, qui va l'utiliser, comment on va l'utiliser, combien de temps ça doit durer, quels sont les matériaux qu'on va vouloir utiliser. Et une fois qu'on a identifié correctement là où on veut aller, eh bien, et qu'on arrive à se poser les bonnes questions, parce que c'est ça...
C'est une méthode, finalement.
C'est une méthode. Et cette méthode-là qu'on peut utiliser pour le design et l'archi intérieur, on peut l'utiliser pour n'importe quel élément. Et vous voyez, pour moi, je me suis servi de cette méthode de créativité pour traiter des eaux usées. Voilà.
On va voir comment Philippe Laville utilise la méthode, lui, puisqu'il chante les bambous. Et lui, c'est plus primaire, c'est il tape sur des bambous.
Sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a du copain. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien. Lui, la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Capitaine, il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine.
Vous écoutiez naturellement Philippe Laville, il tape sur des bambous.
Futur composé, le magazine économie de la rédaction, Christian Apotelloz, Dialogue RCF.
Et nous continuons avec les bambous, mais pour d'autres usages que des usages musicaux. Nous sommes avec Bernard Benayoun, qui est le président et le fondateur de Bamboo for Life. Bernard Benayoun, on a vu que vous découvrez le bambou d'abord pour votre premier métier, qui consiste à faire des meubles en bambou, puis très vite vous vous dites on peut faire autre chose.
Oui, ensuite, ça a été une rencontre avec une personne qui était spécialisée dans la phytorémédiation, donc la dépollution par les plantes. Donc, et qui développait des technologies dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis sur la capacité, on appelle ça les taillis à courte rotation, la capacité à
les
taillis à courte rotation. Oui. Ce sont des plantes, c'est principalement du saule, peuplier, eucalyptus, qui sont utilisées pour faire des stations de traitement d'eau usée pour des industriels, des industries agroalimentaires ou des choses comme ça. Mais c'est donc quand j'ai assisté en fait à des visites visite de sites qu'elle menait là-bas aux États-Unis, je me suis rendu compte que ces plantes qui étaient utilisées étaient des plantes intéressantes, mais qui étaient des plantes qui avaient des grandes lacunes en matière de longévité et d'adaptation en fait à l'eau usée. Ce sont des plantes également qui vont perdre leur feuillage en hiver. Il va y avoir des périodes végétatives très longues et c'est des plantes également qui ont du mal à s'adapter à un excès d'eau ou à un stress en eau. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais il faut changer de plante. Alors elle m'a dit mais la plante miracle elle n'existe pas. Et je dis mais si, moi je travaille avec cette plante que vous cherchez. C'est une plante, je suis sûr qu'elle peut être intéressante.
Bon dit, Dieu, mais c'est bien sûr.
Mais voilà, et donc elle a une plante qui a un système racinaire très dense, très oxygéné, qui va garder son feuillage, qui va avoir une très forte croissance, qui va accepter un stress en eau ou alors un excès en eau. Voilà, une plante qui va être extrêmement adaptable. Est très rustique. Et cette plante-là, c'est le bambou. Donc, quand on a eu cette idée, on est allé voir... à l'époque, ça s'appelait Lanvar. Bah, aujourd'hui, ça s'appelle BPI. Oui. Et on leur a dit...
De l'Agence nationale de la valorisation.
Voilà. Et on leur a dit, on a inventé un nouveau métier. Alors, il dit, ah bon, quel nouveau métier vous avez inventé? On leur a dit, on a inventé le métier d'agriculteur des pollueurs. Ouais. Voilà, les agriculteurs sont toujours accusés d'être des grands pollueurs. Et nous, on a dit, bah voilà, nous sommes des agriculteurs. On fait un type d'agriculture, mais pour produire, non pas des carottes et des bananes, mais pour produire de la dépollution. Et ça leur a plu, ils nous ont dit, allez, ok, on vous aide, on y va, et voilà.
Et là, vous avez passé plusieurs années à faire que de la recherche sur vos bambous.
Bah, au tout début, les deux premières années, on a fait que de la R&D sur le système qu'on mettait en place, le système qui s'appelle le bambou assainissement, d'essayer de voir comment on allait oxygéner, comment le système racinaire était très oxygéné par la plante, comment les bactéries allaient se développer avec un consortium avec des mycorhizes, des champignons, des micro-champignons, la dégradabilité, la capacité de la plante à prélever les éléments. Voilà. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'il a fallu suivre. Au début, on a fait ça avec la chambre d'agriculture.
À quel endroit vous avez fait ça?
On a fait ça sur le site expérimental de Miramas.
D'accord.
Là-bas, on avait acheté un domaine agricole sur lequel on a mis en place la multiplication de bambous. Et on a mis en place un site de recherche qui s'appelait Grandeur Nature, sur lequel on a mis des effluents. Alors, au début, on avait commencé avec des effluents vinicoles, des eaux usées qui provenaient de l'industrie vinicole, qui sont des eaux usées extrêmement chargées, hein, 30 fois plus chargées que des eaux usées domestiques des collectivités.
Très polluant, tout ça.
Voilà. Et on a eu notre première validation là-dessus. On a commencé notre développement.
Comment vous maîtrisez le bambou? Parce que le bambou, vu de l'extérieur et de loin, hein, c'est un peu le chien dent du jardin quand il a repris. Hein, ça pousse n'importe comment, ça pousse partout, ça monte, ça va à droite, à gauche, c'est capable de passer sous des murs. Enfin, c'est une plante un peu infernale, non, que vous avez choisie?
Oui, le fin mot, c'est qu'il faut savoir de se servir des problèmes pour en faire des avantages. C'est ce qu'on avait déjà fait dans un premier temps avec les eaux usées, de considérer l'eau usée comme une ressource et non plus comme un problème. Eh bien, c'est de changer son regard sur la chose. Ça permet d'éliminer le problème. On est des agriculteurs, on a besoin d'eau et de nutriments. Dans les eaux usées, il y avait des eaux et des nutriments. Eh bien, c'est exactement pareil pour le bambou. Le bambou, eh bien, il se colonise énormément, il a une forte croissance. Eh bien, pour tout ça, ce sont des très très forts intérêts à avoir changé de plante, voilà, pour arriver sur le bambou, et une plante qui a des capacités de développement, des capacités de production de cette biomasse qui est extrêmement intéressante, la capacité d'oxygénation du système racinaire, le système racinaire très très dense, il n'y a pas un centimètre cube de sol qui n'est pas colonisé par le système racinaire, du coup un développement bactérien qui est énorme, et tout ça gratuitement, uniquement avec l'activité photosynthétique, l'oxygénation qui se fait sans dépenser de l'énergie électrique. Et voilà, on a donc des stations d'épuration qui sont très peu énergivores.
Donc physiquement, ça ressemble à quoi ce que vous avez fait? J'ai de l'eau usée qui arrive.
Oui, alors l'eau usée arrive. Il y a d'abord un pré-traitement. Donc, on appelle
petite,
ça le
piscine,
le traitement primaire.
Un bassin.
Non, même pas un bassin. Ça peut être fait au fil de l'eau. C'est-à-dire que le pré-traitement, en fait, c'est un traitement, un dégrillage, dessablage, dégraissage. C'est uniquement pour retirer les éléments qui sont dans l'eau, qui sont des éléments grossiers ou des fois des ordures. Il y a énormément de choses qui passent dans les toilettes. Hein. Je vois que malheureusement, on continue à faire la publicité de lingettes qu'on peut jeter dans les toilettes parce qu'elles sont biodégradables. Mais
pas biodégrader chez vous.
Hein. Un Boeing 747, c'est biodégradable. Hein. Mmh. Vous le mettez en pleine forêt, vous attendez 300-400 ans, il n'y aura plus de Boeing au bout de 300-400 ans. Donc on peut dire que c'est biodégradable. Une lingette, c'est pas du tout biodégradable dans un réseau d'assainissement. Mmh. Elle va y passer que quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Et c'est pas en quelques heures qu'une lingette va se dégrader. Donc, inévitablement, on est obligé de retirer ces éléments qui sont passés par les toilettes et qui sont des éléments. Je vous parle pas de la matière fécale, hein, je vous parle uniquement des éléments qui sont dans les toilettes et qui ont leur place normalement dans la poubelle.
D'accord.
Et donc ça, c'est le pré-traitement. Et une fois qu'on a fini le pré-traitement, bien, alors à ce moment-là, on va pomper l'eau et on va la répartir sur la station de bambou assainissement.
Alors, ça ressemble à quoi la station de bambou assainissement? C'est un bassin? C'est une plantation?
Alors c'est pas un bassin, c'est une zone en fait qui va être plantée avec le bambou, qui peut être dans certains cas très petite, hein, si on a peu de production d'effluents, et dans d'autres cas qui peut être géante.
Vous la délimiter pour que les bambous ne sont pas avec des tissus spéciaux qui...
Voilà, c'est pas un tissu, on appelle ça un géotextile, mais c'est une membrane en polyéthylène haute densité. C'est un peu comme une espèce de plastique qui fait un écran, et elle va être enterrée sur 70 cm de profondeur verticalement autour de la bambousée pour pouvoir limiter complètement le développement des rhizomes. Alors ça n'arrête pas le rhizome va simplement faire demi-tour, il va longer un petit peu et il va continuer à coloniser la zone initialement prévue pour faire l'assainissement. Donc voilà pourquoi son côté vraiment...
Et alors après ça s'autorégule, parce qu'à un moment donné il doit y en avoir trop, et de se dire on est trop nombreux là-dedans, non ?
Oui, alors en fait le bambou il atteint sa taille adulte le premier mois de sa vie. Hein, quelle que soit la taille d'un bambou, que ce soit un bambou très nain qui fait 10 cm de hauteur ou un bambou tropical qui fait 40 mètres de hauteur, les bambous atteignent leur taille adulte en un mois, le premier mois de leur vie. Ils peuvent pousser jusqu'à 1 mètre par jour, donc c'est vraiment avec le diamètre définitif. Donc c'est vraiment comme un poteau télégraphique qui sort du sol et qui va monter comme ça pour atteindre 10, 15, 20 mètres en un mois. Cette croissance-là, elle est vertigineuse. Le deuxième mois de sa vie, il y a la gaine qui l'entoure, qui le protège, qui va tomber, les branches se déploient, le feuillage également. Donc à la fin du deuxième mois de sa vie, il a visuellement l'aspect d'un bambou adulte. Il ne va plus jamais changer d'aspect visuel. Par contre, il va mûrir. Et le bambou, qui peut normalement vivre 8 ans, eh bien, pendant les 4 premières années de sa vie, il va jouer son rôle épurateur, c'est-à-dire qu'il va oxygéner le système racinaire pour permettre aux bactéries de se développer, et il va prélever tous les éléments minéraux qui ont été dégradés par les bactéries, il va les prélever pour produire de la biomasse, pour produire du bois de bambou. Et c'est cet effet-là de prélèvement par la plante qui crée la résultante de la dépollution. Une station d'épuration classique, tous les systèmes d'assainissement, tous génèrent des boues d'épuration. Tous les systèmes d'assainissement génèrent des boues, qui est un sous-produit de l'assainissement, qui est un produit qui est problématique, qui coûte cher à faire sortir, qui est assez handicapant, où on va faire des épandages, ou alors de la combustion, de l'incinération, ou d'autres choses. Nous, au lieu d'avoir de la création de boues d'épuration, ben, on produit de la biomasse. Et cette biomasse-là, ben, chaque année, on va la récupérer.
C'est des bambous que vous coupez, alors, cette biomasse.
C'est ça. Chaque année, on rentre dans la bambousée.
Vous taillez, en fait, votre...
Et on va sortir les bambous qui ont plus de 4 ans. Ceux qui n'ont plus leur rôle épurateur, qui sont mûrs, on va les couper à la base. Et le système racinaire, par contre, on n'intervient plus jamais dessus. Hein, il est périn et il va lui se renouveler également tout seul. Et il va se développer pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on fait une station d'épuration qui a une longévité qui est incomparable avec une station d'épuration classique.
La seule main-d'œuvre dont vous parlez, c'est la taille.
C'est ça, la coupe des bambous. En fait, chaque année, on va marquer les bambous avec un point de couleur pour pouvoir connaître l'année de sa naissance. Mmh. Et 4 ans après, on va dire, bah allez, on va couper tous les bambous qui ont un point rouge. C'est les bambous qui seront adultes, mûrs et prêts à être valorisés derrière dans une autre filière. C'est-à-dire, voilà, au lieu de générer un nouveau problème avec des boues d'épuration, on génère de la biomasse à forte valeur ajoutée qui va pouvoir être valorisée derrière dans plein de filières. On va pouvoir faire de l'énergie, on va pouvoir faire des bois compressés, on va pouvoir des textiles, de la fibre, il y a une vie derrière et des meubles.
Voilà. On fait une pause musicale avec Michel Jonas que vous avez choisi, qui interprète Joueur de blues.
Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les îles. Une mauvaise note au destin. Si c'est facile, t'es dans la rue, dans la ville, un walkman collé sur le nombril, enfant noir, femme de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born to lose. Joueur de blues, on est le joueur de blues. Joueur de blues,
Fausto, Bombard ou Caroline. Un sage assis sous un cerisier, Mère Teresa, frère Luther King.
C'était Joueur de blues, interprété par Michel Jonas.
Futur composé, le magazine économie de la rédaction, Christian Apotelloz, Dialogue RCF.
Et nous retrouvons Bernard Benayoun, qui est le président et le fondateur de Bamboo for Life. Bernard Benayoun, vous avez raconté comment vous avez découvert cette plante un peu magique, qui est, dont vous avez découvert les qualités, vous avez dompté, parce que je pense qu'il fallait savoir comment marchent les plantes et regarder dans les jardins comment se passe la nature pour essayer de l'utiliser. Et vous l'avez utilisé pour ce que vous m'avez déposé comme nom, Bamboo Assainissement. C'est aujourd'hui une entreprise qui développe des systèmes d'assainissement qui se vendent en Europe et qui se vendent à l'international dans les pays en voie de développement qui ont de gros soucis d'assainissement.
Oui, tout à fait. Donc, on développe en France métropolitaine sur des sites industriels ou alors sur des collectivités, des industries agroalimentaires, des industries chimiques, pharmaceutiques. Au niveau des collectivités, ben, c'est tout simplement pour faire la station d'épuration des villes.
Récupérer... Et là, vous leur dites quoi ? C'est plus écolo, d'abord ?
Tout à fait.
C'est le même prix ? C'est moins cher ? C'est plus cher ?
Alors, c'est beaucoup plus économique, hein, parce qu'on arrive à avoir des prix d'implantation qui sont inférieurs à des stations classiques, mais surtout les prix d'exploitation, en fait, qui sont bien moins élevés, ce qui nous permet, d'avoir un coût d'exploitation qui peut être jusqu'à trois fois inférieur à un coût d'exploitation.
Et là, vous êtes contrôlé, vous avez les normes qu'il faut, tout ça.
Voilà, tout à fait. Il va y avoir des zones d'autosurveillance qui vont pouvoir nous permettre de montrer constamment au service de l'État que nous avons un système d'assainissement qui est parfait. Nous avons des stations sans rejet en milieu naturel. On est capable aussi de travailler sur la totalité de l'évapotranspiration, donc la disparition de l'eau à travers le feuillage, et donc de ne plus avoir de rejet de la station dans le milieu naturel, dans la rivière, ce qui permet également de s'affranchir totalement d'une problématique assez importante sur les micro pollution, hein, les rejets des métaux lourds, les éléments traces métalliques, les éléments médicamenteux qui continuent aujourd'hui tous les jours à polluer nos rivières. Eh bien, quand on fait une station d'épuration qui ne rejette pas dans le milieu naturel, eh bien, c'est la plus grande garantie qu'on a un parfait respect en fait de la norme de rejet, parce que on va tout séquestrer par la plante et réussir à faire une station d'épuration productive. On fait un paysage, on va faire du paysage, on va faire de la séquestration de carbone.
L'architecte qui revient là, non ?
Bien sûr, mais on va avoir un rôle également de séquestration de carbone, parce que c'est la plante par excellence qui séquestre le plus de CO2. On va séquestrer 60 tonnes de CO2 par an et par hectare. Et on va avoir un effet également induit qui est assez intéressant, c'est sur le rafraîchissement bioclimatique. On travaille actuellement sur des projets de lutte contre les îlots de chaleur urbains en France, notamment à Paris ou également à l'étranger. Parce que comme on transforme l'eau liquide au format gazeux, comme l'eau est évaporée par le feuillage, eh bien, on a l'effet adiabatique. L'effet adiabatique, c'est la consommation d'énergie dans la transformation moléculaire, voilà, de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Cette consommation d'énergie, c'est de l'énergie chaleur. Du coup, on arrive à réduire les températures entre moins 3 et moins 8 degrés en pays tempéré et entre moins 10 et moins 20 degrés en pays chaud, tropical ou désertique. Donc, on a vraiment un effet également de confort thermique. Voilà pourquoi on arrive à s'implanter dans les villes résilientes de demain, dans les nouvelles villes, les villes qui vont faire attention également au réchauffement climatique.
Il y a du boulot. On va parler de ce que vous faites dans les pays du Sud, on va le dire. Vous avez créé une ONG, l'association Open, Organisation pour l'eau et la nature, parce que là, le prix de marché, le fonctionnement tel quel pour nos villes, ça fonctionne pas. Il y a un gros besoin, évident.
Il y a un besoin énorme, en fait. Hein. Dans les pays en développement, les chiffres de l'ONU sont catastrophiques. Hein. Il y a 7 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne, 7 enfants sur 10 qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et ils meurent de dysenterie, choléra, diarrhée. Et toutes ces maladies sont liées à la présence, à l'omniprésence des eaux usées dans leur environnement. En fait, comme il n'y a pas de système d'assainissement, eh bien, ils sont en constant contact avec les eaux usée et avec les bactéries pathogènes. Et donc ça, ça crée des maladies énormes. Donc, pour ne pas faire les erreurs du passé et installer des stations d'épuration qui sont inexploitables dans ces pays-là parce que beaucoup trop chères, beaucoup trop techniques, eh bien, on apporte notre technologie. Notre objectif avec la création de cette ONG, c'est de faire un mètre cube assaini en pays développé, que l'on compense avec un mètre cube assaini en pays en développement. Et donc, on met à disposition notre technologie et une partie de notre temps.
Là, vous dites que votre technologie est plus rustique dans l'exploitation.
Beaucoup plus rustique et beaucoup plus adaptée à ces pays-là. Elle est adaptée à la fois aux pays très développés comme la France, mais également aux pays en développement, parce qu'on va produire une biomasse qui va derrière avoir un rôle. Quand en Afrique, il y a beaucoup de déforestation, une déforestation catastrophique, mais la grande partie de cette déforestation, elle est faite pour produire du charbon de bois, pour faire à manger, pour faire cuire la tambouille. Donc, on va être capable de déforester tout autour des villes et dans des endroits énormes pour fabriquer simplement du charbon. Si demain on arrive à produire du charbon de bois avec du bambou et ça fait des charbons de très grande qualité, du charbon de bois avec du bambou et ce bambou a poussé grâce aux eaux usées, eh bien finalement on a une circularité, on a une transversalité qui est extraordinaire parce qu'on arrive à avoir vraiment le sens du mot développement durable. On va créer un problème, une eau usée qui va être utilisée comme une ressource pour produire de la biomasse. Cette biomasse va être récoltée, elle va être transformée pour fabriquer des matériaux à très haute valeur ajoutée ou de l'énergie ou du charbon. Et va créer de la richesse, donc va créer un revenu qui va permettre l'entretien de la station d'épuration et sa durabilité dans le temps. Voilà, notre idée, ce n'est pas uniquement d'installer une station et de s'en aller, mais c'est d'installer des stations là-bas et d'installer également tout le concept d'exploitation et tout le concept de valorisation de cette biomasse-là qui va pouvoir créer de la richesse, créer des métiers et alimenter un réseau qui ne va pas être basé sur la déforestation. On a fait une installation en Guinée-Conakry, aux Philippines, et là on est en train de se développer en Côte d'Ivoire, mais en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Et notamment le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvahy, qui est un homme exceptionnel et qui travaille justement sur la reforestation et qui a des très fortes ambitions concernant la reforestation de la Côte d'Ivoire.
Merci Bernard Benayoun d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président, le fondateur de Bamboo for Life. Vous venez nous expliquer comment, à partir d'un matériau qui est d'une plante qui nous semble banale, on arrive à développer plein d'activités qui sont bonnes pour la planète. Vous développez cela à partir de l'arbois, le technopôle de l'arbois, dans la pépinière CleanTech, où il y a un faisceau d'entreprises tout à fait innovantes et sympathiques. Merci, à bientôt.
Au revoir.